RCF.
Cédric Meunier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour le journal des entreprises en Sarthe. L'édition du mois de septembre vient de sortir. Qu'est-ce qu'on trouve à la une du journal ce mois-ci ?
Alors ce mois-ci, on a fait une enquête sur les aéroports en région. Il faut savoir qu'on en a 86 hein, sur le territoire, et surtout ce qu'on constate, c'est qu'il y en a quand même un certain nombre qui subissent une baisse très importante de leur trafic. Alors quand je dis baisse, c'est souvent une baisse à deux chiffres pour 25 d'entre eux. On a aussi ce chiffre de 17 aéroports en région qui accueillent plus d'un million de passagers. Un million de passagers, c'est généralement le seuil que l'on attend pour qu'un aéroport soit vraiment rentable.
À Nantes, c'est le cas par exemple dans le Grand Ouest ?
Oui, puisqu'à Nantes, c'est vraiment la locomotive hein, du Grand Ouest en termes de trafic aéroportuaire, puisque Nantes Atlantique, c'est quand même plus de 4,4 millions de passagers chaque année. Il faut vous dire que c'est un aéroport qui a des lignes directes vers différentes destinations européennes. Dans la région, il est suivi de près aussi par l'aéroport de Saint-Nazaire, qui totalise 22 000 passagers, mais là, c'est plus du trafic entreprise, on va dire.
Plus proche de chez nous, il y a l'aéroport d'Angers. Certains d'entre nous s'en sont peut-être servis pour aller à Londres ou pour un long week-end. Comment est-ce qu'il fonctionne celui-là ?
Alors, celui d'Angers, il est propriété de l'agglomération d'Angers, il est propriété de la collectivité. C'est un aéroport qui fait 8500 passagers pour l'année 2015. Là, sur cette année, il vise passer le seuil des 10 000 passagers. C'est un aéroport qui fonctionne grâce à des lignes régulières vers Londres, vers Toulouse. Vers l'Espagne aussi, il me semble, ces lignes régulières qui font qu'il y a un trafic passager assez important.
D'ailleurs, il y a un encadré sur ça, sur le dossier qui est consacré aux aéroports régionaux. Il y a la singularité du Mans. Voilà, on a deux pistes, il me semble, au Mans-Arnage, qui servent une fois dans l'année quasiment.
Le Mont-Arnage, c'est vraiment l'aéroport atypique hein, des Pays de la Loire. C'est un aéroport qui fait 6300-6400 passagers à l'année. Fréquentation stable hein, depuis 5 ans, ça varie à peine d'1% en négatif. Mais voilà, sa particularité, comme vous le soulignez, c'est qu'un tiers de son trafic, c'est grâce aux 24 heures du Mans. C'est-à-dire que là, il se transforme en petit aéroport international et on a à peu près 2000 personnes, 1500-2000 personnes qui débarquent au Mans par ce moyen-là. Et ça, c'est vraiment ce qui fait aussi la force de cet aéroport, parce qu'il n'y a pas de ligne extérieure. Ça profite éventuellement à certaines entreprises du Mans, ça profite, j'imagine, au MSB, à Feu, le Mans FC, quand ils étaient parmi l'élite. Donc ça, c'est vrai que cet aéroport, du fait qu'il soit équipé pour un grand événement, fait qu'il a sa légitimité sur le territoire et qu'il est un service plus pour le circuit, vu qu'il est juste à côté, pour les VIP, pour les écuries. C'est très important d'avoir cette facilité d'accès grâce à cet équipement.
Vous avez dit 6000 passagers qui passent pour le Mans, c'est 6 fois plus qu'à Laval. À Laval, on est à quoi ? On est à peine à 1000 passagers par an ?
Oui, c'est ça. Alors Laval, c'est un petit aéroport qui a été développé vraiment dans les années 70 pour une aviation d'affaires. Hein. Donc on a quelques grosses entreprises lavaloises qui possèdent leur propre avion sur place. J'imagine qu'il est utilisé un peu pour le sport et autres manifestations touristiques, s'il y en a. Mais là, c'est pareil, c'est un aéroport qui fonctionne avec 3 ou 4 personnes, qui est ouvert 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'on a, pour le ravitaillement en carburant, il y a une pompe automatisée. Donc il n'y a pas besoin d'équipe au sol à ce moment-là.
Vous avez dit à Angers, ça appartient à l'agglomération. Et pour le reste, qui est-ce qui paye ?
Alors si on prend le cas du Mans, c'est la CCI hein, qui est gestionnaire hein, de l'équipement aéroport du Mans. C'est elle qui porte les investissements. Donc il y en a régulièrement pour aménager notamment le parking, pour entretenir les pistes. Après, selon les aéroports, ça dépend des modèles. C'est souvent des syndicats mixtes composés. Alors là, je parle de la Mayenne, notamment à Laval. Il me semble que c'est le Conseil Général, c'est l'agglomération de Laval et la CCI. Donc on s'arrange toujours. Généralement, c'est les collectivités. Donc globalement, on est souvent sur des équipements qui sont financés par le public pour financer le déplacement d'une minorité de personnes. Bon, ce qui peut poser question sur certains équipements qui sont surdimensionnés pour certains territoires. Ce qui est vraiment aussi l'objet de notre enquête, se dire est-ce que tous ces aéroports régionaux ont-ils une utilité ? Doit-on fermer quelques-uns ? Il ne faut pas non plus fermer tous les petits. On le voit, le Mans, c'est un petit aéroport, mais il est utile pour les 24 heures. Laval, on peut se poser la question de savoir si cet aéroport qui fait à peu près un millier de passagers à l'année se justifie encore et si ces coûts ont lieu d'être.
On aborde aussi dans ce numéro de septembre la pose de la première pierre du futur siège du Crédit Agricole.
Oui, c'est un gros chantier, hein. On le voit quand on arrive du Mans par la route de Laval. Donc c'est un siège énorme, c'est à peu près 9000 m² en entrée de ville sur plusieurs niveaux. Pour le Crédit Agricole, le problème qu'ils avaient, c'est leur ancien siège qui était en centre-ville, rue Prémartine. C'était un espèce de paquebot des années 70, immense, très énergivore, qui coûtait finalement beaucoup plus cher à rénover qu'à démolir. Donc l'idée, c'est de le, ça a été de mettre le siège donc de la caisse Anjoumène, hein,
qui n'était pas du tout pratique d'accès en plein centre-ville.
Oui, complètement. Surtout que le Crédit Agricole au Mans, c'est le siège, la caisse Anjoumène, donc qui regroupe les départements de la Sarthe, du Maine-et-Loire et de la Mayenne. Donc l'idée, c'est d'avoir quand même quelque chose en entrée de ville, accessible par l'autoroute, accessible par le tramway qui arrive de la gare. Donc c'est un équipement qui est beaucoup plus pratique, comme ça, pour l'ensemble des équipes.
On est sur un chantier qui va coûter combien et qui va durer combien de temps pour ce siège du Crédit Agricole Anjoumène?
Alors l'investissement, c'est 30 millions d'euros et c'est 18 mois de travaux. Donc là, théoriquement, il devrait être livré pour 2017. Mais il faut savoir aussi que ce chantier s'inscrit dans un vaste plan du Crédit Agricole de rénovation aussi de ses agences, puisqu'au total, sur ces dernières années, le Crédit Agricole va injecter 100 millions d'euros pour donc son nouveau siège à 30 millions, mais aussi pour une grosse partie des agences de la Sarthe, de la Mayenne et du Maine-et-Loire. Donc on le voit aussi notamment au centre-ville du Mans, puisque l'agence de la Place de la République est en train d'être rénovée. Donc ça aussi, ça fait partie des grands chantiers. Donc là, ils sont vraiment sur un grand, grand projet immobilier de rénovation de tout leur parc et de construction d'un nouveau siège social.
Puis vous avez aussi parlé d'un autre chantier dans ce numéro de septembre, celui de la Maison Saint-Julien et de nos nouveaux locaux à RCF. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cet article que vous avez écrit sur nous ?
Alors on revient bien sûr sur ce déménagement, sur ce que ça change pour RCF. On explique aussi comment fonctionne la radio, parce qu'on est sur une radio associative, donc voilà, qui a un modèle économique particulier, qui a besoin du don pour fonctionner, qui a aussi, comme le souligne sa directrice, des problèmes de visibilité sur le fait qu'elle émet sur Le Mans et sa périphérie. Donc on revient là-dessus et on revient un petit peu aussi sur le chantier de la Maison Saint-Julien, qui est un projet quand même à 9 millions d'euros, ce qui n'est pas rien, et qui a permis de faire vivre quand même un certain nombre d'entreprises locales dans le bâtiment à un moment où la conjoncture ne leur était pas forcément favorable.
Oui, parce que rappelez-vous, on a fait appel à 3/4 des entreprises qui ont construit notre Maison Saint-Julien étaient des entreprises locales. Merci Cédric Menet d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci.
À bientôt et je rappelle que le numéro de septembre de Journal des entreprises vient de sortir et il est disponible en librairie.